Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, donc conférencière et auteure de ce tout nouveau livre, Élie, comprendre la dépression à l'adolescence, paru chez Midi 30. Et dans ce livre-là, Stéphanie, on suit Élie, 15 oui. ans, jeune adolescente, qui, pour ma part, j'ai trouvé bien sage. Hmm. Parce qu'elle a cette maturité d'aller consulter assez rapidement le médecin de famille lorsqu'elle pense avoir une dépression, ouais. Elle va moins bien, elle en parle même à ses parents. Or, selon les statistiques, il y a peu d'adolescents qui vont chercher de l'aide mm-hmm. et qui parlent de leurs symptômes de dépression.
Ouais.
Donc, Élie, c'est pas la première référence. Disons que c'est plutôt ce qu'il faudrait faire.
Oui, bien, en fait, Élie, c'est nommé à un moment donné dans le livre, tu sais, un de ses facteurs de risque. Un des facteurs de risque à la dépression à l'adolescence, c'est la maturité précoce.
Ouais.
Alors, effectivement, Élie a une maturité qui est peut-être plus grande que la majorité des jeunes de 15 ans. Puis c'est vrai que les jeunes d'emblée ne vont pas en parler. En fait, souvent, ils ne se comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Ils vont souvent rester pris avec ça. Ils vont peut-être un peu en parler à leur ami, mais encore, ils ont peur peut-être des jugements. De plus en plus, vont aller peut-être sur Internet faire des petites recherches et tout ça. Puis c'est pas nécessairement toujours des bonnes sources. Ils vont pas vérifier, en fait, là, quelles sont les références. Et voilà. Donc, Élie, c'est peut-être plus une compagne. Ce qui arrive, en fait, souvent, c'est que ce sont les parents qui, quand ils s'inquiètent pour leurs enfants ou quand ils sont dans ce processus-là, qui vont l'acheter pour leur enfant, pour leur ado, pour que l'ado puisse avoir un point de repère, si on veut, puis un modèle.
Oui, parce que c'est super bien fait. C'est amené comme un blog, mm-hmm. donc une façon très accessible pour les ados, mais aussi pour leurs parents. Et cette Élie, elle fait bien d'en parler à ses parents parce qu'on découvre dans le récit que son père a déjà eu une dépression lorsqu'il était jeune, et ça aussi, c'est un facteur de risque.
Tout à fait. En fait, tant au niveau génétique qu'au niveau de l'apprentissage qu'on appelle vicariant, donc par observation, c'est-à-dire qu'une personne qui a déjà souffert de dépression, on sait qu'elle est beaucoup plus à risque, elle aussi, d'en refaire une autre. On sait aussi que dans ces stratégies de coping ou d'adaptation, bien, on peut voir des distorsions cognitives, des choses qui sont peut-être moins adaptées à la réalité, puis qui peuvent faire en sorte que, bon, c'est ce qui va faire en sorte qu'on sera plus à risque d'en revivre une autre. Donc, Élie, c'est sûr qu'elle est exposée à ça, tout d'abord sans le savoir. Finalement, quand son père ouvre ça avec elle, bien, ça lui fait du bien. Ouais. Elle se sent moins seule, elle se sent plus comprise, elle se sent pas du tout jugée non plus par ses parents parce que c'est une réalité qu'ils connaissent, et donc ça la met en confiance et ça la rend plus à l'aise.
C'est une façon aussi de mieux comprendre ce qui nous arrive, de dire OK, je peux avoir un miroir, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Notre Élie, on le disait tout à l'heure, elle a cette maturité précoce. Mm-hmm. Elle semble aussi une jeune fille qui aime bien la performance. Hein? Elle se décrit comme quelqu'un de posé, même lorsqu'elle était jeune, petit léotard, pour les cours de danse, là, tout est parfait. Est-ce que ça aussi, c'est un trait de personnalité qui peut plus amener vers des troubles anxieux ou la dépression?
Bien oui, c'est sûr que ce sont des facteurs prédisposants aux troubles intériorisés. Donc justement, de plus en plus, on en parle de l'anxiété de performance, hein, puis le désir de plaire, le désir de ne pas décevoir, le désir d'être la meilleure de soi-même et la meilleure comparativement aux autres. Donc oui, c'est forcément un facteur de risque puis qu'Élie présente et qu'on voit là, tout au long du récit, comparativement à sa meilleure amie, qui est beaucoup plus éclatée, qui est peut-être plus free spirit, plus à l'aise avec elle-même, avec son corps, avec sa personnalité. Donc ça aussi, je pense que ça peut être un beau modèle pour Élie.
Ce qu'on apprend dans le livre, Stéphanie Deslauriers, c'est que les filles, ils sont plus touchées par la dépression. J'étais pas si étonnée. En fait, ma réaction, ça a plus été bon encore. Bon, peut-être pas nécessairement le bon réflexe, mais il y a des raisons à ça.
Bien, en fait, d'une part, il y a une manière très... Une explication très sociale, très sociétale, la manière dont on élève nos filles. On élève nos filles pour qu'elles soient gentilles, douces, qu'elles aient l'air de toujours bien aller, qu'elles aient l'air de toujours aimer tout le monde. Donc, de ne pas nécessairement extérioriser leur détresse, leur colère. C'est pas beau, c'est pas féminin. Alors, les filles, ce qu'elles vont faire quand elles se sentent en détresse, c'est qu'elles vont retourner cette détresse-là ou cette violence-là, si on veut, qu'elles peuvent ressentir contre elles-mêmes. Donc, c'est vrai pour la dépression, mais c'est vrai pour les troubles anxieux, les troubles alimentaires. Donc, tout ce qui est trouble dit intériorisé. Et à l'inverse, également, de par la façon dont on élève nos garçons, ils vont être beaucoup plus à risque de présenter des troubles extériorisés, comme des troubles de la conduite, troubles d'opposition avec provocation, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Donc, c'est quelque chose qu'on observe, qui est très genré, puis qui a une grande, grande influence au niveau des apprentissages et de la manière dont on élève nos enfants.
Est-ce que les symptômes sont genrés aussi? Parce que j'aurais l'impression que les garçons auraient peut-être des comportements plus à risque et les filles des comportements peut-être plus d'ordre de la sexualité plus complexe. Est-ce qu'on peut dire ça?
Bien, oui, c'est vrai qu'on va observer des fois certaines différences quant à la manifestation des symptômes. Donc oui, chez les filles, on va voir des comportements plus à risque au niveau de la sexualité, par exemple, la consommation. Chez les garçons, peut-être plus affilié à des pères déviants. On sait qu'il y a une grande proportion des décrocheurs aussi qui ont un profil dépressif. Alors ça, c'est non négligeable. Et oui, on voit une distinction en fonction là, du genre de la personne. Puis je vous dirais que c'est assez vrai à l'âge adulte parce qu'on est encore conditionné à comment est-ce que j'ai appris à me comporter socialement et comment j'ai appris à extérioriser ma détresse ou à l'intérioriser finalement. Là.
Je veux m'adresser aux parents qui nous écoutent, Stéphanie. Comment on départage un comportement, disons, régulier de l'adolescent et sans tomber toujours dans « bon, c'est de la faute à la crise d'adolescence » et des comportements qui peuvent nous inquiéter?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise d'adolescence, à prime abord, c'est un mythe. En fait, il y a moins, il y a moins de 10 % des jeunes ados qui vont passer à travers une crise à proprement parler. Ceci étant dit, l'adolescence, c'est pas facile, OK? Il y a tous les changements au niveau corporel. D'ailleurs, ça, c'est un facteur de risque chez les filles parce que souvent, elles ont leur puberté en même temps que la transition primaire-secondaire. Donc, ça fait comme beaucoup à gérer. Donc, il y a ce changement-là, les changements physiques, les changements hormonaux qui sont non négligeables également parce qu'il faut se rappeler que la dépression, c'est un balancement au niveau de la sérotonine dans le cerveau, donc qui est un neurotransmetteur. Oui, il y a des choses pas faciles qui se passent à l'adolescence. On se détache de la famille pour répondre à notre besoin d'appartenance auprès de nos amis. On est en grosse quête identitaire. Je veux être unique, je veux être moi, mais je veux pas trop ressortir du lot. Je veux pas être marginalisée. Alors, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile. On y va beaucoup à tâtons par essai-erreur. Donc, première chose pour la crise d'adolescence. Et deuxièmement, comment savoir si ça s'inscrit plutôt dans une dynamique là, de symptômes dépressifs. Ce qu'on va observer, bien, ça va être la récurrence, la chronicité, la fréquence, l'intensité des symptômes, des manifestations. D'ailleurs, dans le livre, je parle des symptômes diagnostiques, en fait, qu'on trouve dans le DSM-5. Donc, tout ce qui est au niveau de l'altération, au niveau de l'appétit, du sommeil, de l'humeur, l'irritabilité.
La fatigue, plus être capable. Élie, elle l'a décrit, je suis même plus capable de m'habiller. Ouais. Là. Donc là, à ce moment-là, on peut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est aussi la perception qui change quand on est ado, même pré-ado, on est plus grand, justement, notre corps change et les autres nous perçoivent différemment comme une femme, quand dans notre tête, on n'est peut-être pas rendu là. Mm-hmm. Et ça aussi, en ce qui a trait à la distorsion, ça doit jouer.
Oui, les attentes que les autres ont envers nous, effectivement. Puis c'est vrai chez les jeunes qui vont être très grands, qui vont être développés, qui vont avoir une puberté précoce, on s'attend à ce qu'ils soient plus vieux ou que leur maturité affective corresponde à leur maturité physique, ce qui n'est pas le cas.
En terminant, je veux rappeler que c'est important de diagnostiquer, bien sûr, la dépression, de le faire le plus rapidement possible, de bien le faire selon la médication, bon, les différents suivis, parce que sinon, ça peut devenir récurrent et même à l'âge adulte. Hein.
Tout à fait, on peut parler de dépression chronique et ce qu'on sait, c'est qu'à une fois qu'on a vécu une dépression dans notre vie, on est beaucoup plus à risque d'en faire une deuxième puis une troisième. Donc, de diagnostiquer, donc d'aller voir notre médecin de famille, pédopsychiatre pour les ados, de recevoir un traitement pharmaceutique aux besoins qui est approprié et surtout de consulter, d'aller chercher des outils avec l'aide des professionnels.
Parce que quand ça devient plus grave ou plus récurrent, c'est là aussi le risque de décrochage qu'on veut absolument éviter. On peut aussi aller voir un psychoéducateur, une psychoéducatrice, comme vous l'êtes, Stéphanie Deslauriers, conférencière et auteure de ce livre « Élie, comprendre la dépression à l'adolescence » chez Midi 30, également... Vous êtes, je dirais, fondatrice ou là à la tête de ce blog Ensemble Maintenant, ensemblemaintenant.com.
Ben, merci infiniment.
Bon été.